13h, les rendez-vous de midi. Vous êtes de retour, Emmanuel. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Et votre invité pour en parler, Philippe Cadeau.
Exactement, Philippe, qui est dirigeant et formateur d'Esprit Prévention, qui est maintenant un invité désormais récurrent de Neuf. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Emmanuel.
Voilà, c'est vous qui nous avez alerté. Attention, le 28 avril, c'est cette journée mondiale et c'est vraiment votre travail. On peut rapidement vous présenter, vous représenter et puis rappeler le rôle d'Esprit Prévention sur le territoire.
Donc, Esprit Prévention est basé à Bretignolles-sur-Mer. C'est un centre de prévention avec trois volets principaux, essentiellement les formations. Donc formation santé, sécurité au travail, la santé physique, la santé mentale. On a également un pôle plus de conseils, d'études de poste, on va dire, d'audit. Et puis un troisième pôle qui permet de fournir des équipements de protection individuelle, donc du matériel.
On va voir que ces trois pôles, ces trois axes, ils sont à fond dans le sujet de la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Vous les mobilisez évidemment. Voilà, c'est important dans le monde entier aujourd'hui. On promeut la prévention des accidents, des maladies professionnels. Alors, on imagine bien qu'on n'est pas tous égaux, selon les pays, évidemment, selon les continents aussi, selon aussi tout simplement les secteurs d'activité. Vous, c'est votre quotidien à Esprit Prévention, c'est même un sacerdoce presque.
Oui, c'est à la fois c'est un métier, c'est une passion, c'est un domaine qui est en évolution permanente. On peut parler de l'intelligence artificielle.
C'est le thème du jour national, oui. International, pardon.
Ouais. Justement, avec des nouveaux risques créés par l'IA et aussi des risques et des accidents qu'on pourra peut-être déjouer grâce à l'IA et à des outils qui vont émerger dans les mois ou dans les années à venir.
Voilà, c'est exactement le thème qui a été choisi notamment vers les Nations Unies sur cette journée mondiale. Ouais. L'évolution numérique, les avantages, les inconvénients. On n'y est pas encore complètement ici, mais ça vient.
Non, mais c'est vrai qu'on peut, nous déjà on le fait sans l'IA, mais on sait que dans certains secteurs d'activité, certaines filières professionnelles, on a plus ou moins des accidents de certains types et pas dans d'autres. Bien qu'il puisse y avoir aussi des disparités, parce que, je ne sais pas, si on prend une boîte de maçonnerie, par exemple, on peut avoir une entreprise qui a des outils innovants, une organisation du travail qui a fait des choses en termes de prévention, et donc avec des risques et des accidents en moins, et inversement, des gens qui travaillent avec des méthodes ou du matériel un peu plus archaïque, et donc avec des risques en plus.
Et voilà, c'est aussi votre travail de voir selon les secteurs les risques, les manières de les déjouer, de les limiter. Alors justement, on va faire un petit panorama territorial. Quels sont vous concernant et concernant les auditeurs du Nord-Ouest Vendée, puisque c'est une grande partie de votre terrain d'intervention, les risques les plus fréquemment identifiés aujourd'hui, ici?
Alors, sur le territoire, on a quand même des entreprises assez diversifiées. On a un peu d'agroalimentaire, on a du monde agricole, on a pas mal d'artisans, de petites et moyennes entreprises. Donc on trouve un peu tous les risques, je dirais, sans oublier bien sûr les risques liés aussi à la santé mentale, parce que souvent on les met un peu de côté. On pense accident, on pense aux chutes, on pense aux blessures. Alors ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est quand même les accidents avec le petit matériel, les petites machines, les lapidaires, les perceuses, tous les petits outils à main. Beaucoup de chutes, chutes de plein pied, chutes de hauteur aussi. Ça c'est pour les accidents du travail, dans le top 2 on va dire.
Oui.
Et puis pour les maladies professionnelles, et là tous les secteurs sont vraiment touchés, c'est tout ce qui touche au TMS, les troubles musculo-squelettiques qu'on retrouve dans toutes les professions, y compris dans le tertiaire.
Ça c'est un peu le grand mal du siècle moderne.
Ouais. Bah oui, on disait que c'était le mal de dos, mais ouais. Aussi les autres articulations comme le poignet, les épaules, etc. Et voilà, toutes les entreprises sont concernées. Et en plus, on sait qu'il y a un des facteurs importants qui déclenche en tout cas les TMS que sont les risques psychosociaux et le stress en particulier, et d'où le lien entre la santé mentale et la santé physique.
Et on voit que parfois, vous le voyez surtout, les conséquences peuvent être lourdes.
Oui, bien sûr, avec des arrêts de travail, donc aussi une perte pour l'entreprise d'un point de vue économique, et puis des relations sociales qui vont se dégrader, jusqu'à évidemment des conséquences aussi peut-être familiales ou autre, ou quand on a mal quelque part et qu'on en arrête, on n'est pas forcément au mieux de sa forme mentalement en tout cas.
Donc il y a évidemment un éventail de risques et de conséquences. Comment les prévenir? Mais c'est aussi votre rôle. Et déjà, il y a un cadre, alors à la fois législatif et puis judiciaire presque. On peut évoquer les principes généraux de prévention qui ont été établis.
Ouais, donc dans le Code du travail, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est ce qu'on appelle les 9 principes généraux de prévention, qui souvent sont bien oubliés dans les entreprises où, quand on veut faire de la prévention, parfois on a tendance à recourir au catalogue d'équipements, qu'est-ce qu'on peut acheter, quels équipements de protection individuelle on peut acheter, alors que je dirais qu'il faut prendre le temps d'étudier les risques, de les évaluer bien sûr, mais de savoir quelle est la problématique en fait, et ensuite donc d'appliquer cette méthode, puisqu'on peut parler de méthode, que sont les principes généraux de prévention.
On peut en citer quelques-uns, c'est 9 principes.
Ouais, donc en fait l'idée c'est plutôt que de commencer par acheter des équipements, il faut essayer de tout faire pour supprimer les risques. Être le plus en amont possible, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une possibilité d'accident ou de maladie professionnelle et comment on pourrait essayer de le supprimer. Ensuite, on va essayer de diminuer les risques, de les rendre moins importants avec des conséquences moins graves, puis de privilégier les protections collectives et ensuite, en dernier recours, les protections individuelles et les consignes de sécurité, les instructions, les formations, les sensibilisations qu'on peut donner à nos collaborateurs.
Mais évidemment, selon la taille de l'entreprise, on n'a pas toujours quelqu'un qui va être dédié à ce sujet-là.
Non, alors depuis 2011, si je ne me trompe, il y a un décret qui est passé, qui est peu connu, c'est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent désigner quand même un chargé de prévention. Alors, chargé de prévention, référent sécurité, on peut lui donner le nom qu'on souhaite, mais c'est quand même une personne qui est formée, donc qui a des compétences, même dans une toute petite entreprise, justement pour connaître ces méthodes. Là pour savoir de quoi on parle quand on parle d'évaluation des risques ou du document unique. Et alors, même si c'est pas son job, je dirais à temps complet, au moins c'est une personne ressource qui va être capable, par exemple, de nous contacter ou d'aller chercher de l'info auprès de la CARSAT, de l'inspection du travail ou ailleurs.
Mais toute petite entreprise, c'est pas toujours simple. Hein, alors, vous, sur le terrain, vous voyez des entreprises qui n'ont pas du tout mis en place ce système.
Oui, bien sûr. Oui, alors
c'est obligatoire ou pas ?
C'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Donc nous, on fait la formation justement de chargé de prévention ou de référent sécurité pour que en quelques jours, la personne puisse avoir ces notions-là.
D'accord, et puis vous me parlez aussi de ce document qui doit être mis à jour et apparaître dans toute entreprise, c'est pareil, est-ce qu'on le voit vraiment dans tout... C'est quoi ce document d'ailleurs ?
Alors ce document, c'est le document unique d'évaluation des risques, bien connu sous le nom de DU ou DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est un décret de 2001. Donc ça fait quand même 24 ans qu'il existe et qu'il est obligatoire. Alors je n'ai pas les statistiques, les dernières statistiques en tête, mais je pense qu'aujourd'hui on est peut-être quand même à 80% des entreprises en France qui ont leur document unique. Et donc il s'agit en fait d'abord d'identifier nos différents métiers, les différentes tâches en fait qui sont faites dans l'entreprise, et en face de chaque tâche, de lister les risques et de les évaluer. C'est-à-dire qu'on va croiser la fréquence d'apparition du risque ou de l'accident et la gravité, et on va mettre ensuite une priorité, ce qui va permettre ensuite de mettre en place un plan d'action de prévention, avec une hiérarchie, en se disant, ces situations dangereuses-là, on va essayer de prévenir ça dans les 6 mois à venir, ou ça, on verra ça dans quelques années, si c'est moins prioritaire.
Et c'est pareil, ça, c'est pas forcément très suivi à 100%, quoi.
Normalement, ça devrait. Dans les grosses entreprises, ça l'est. Maintenant, quand même, c'est beaucoup plus fréquent. Je dirais que ce qui importe, le document unique d'évaluation des risques n'a jamais été fait pour être exhaustif. Il faut que ce soit le plus complet possible. Mais l'idée, c'est vraiment d'impliquer les salariés, les gens qui sont sur les postes de travail, pour pouvoir compléter ce document de manière efficace. Et puis, c'est pas tellement le document qui importe, c'est plus les actions qui vont arriver derrière.
Et alors, autre exemple de prévention, de principe de prévention auquel vous pensez là sur les 9 importants qu'on devrait avoir en tête toujours.
Toujours d'essayer justement de supprimer les risques, de se poser les questions le plus en amont possible et ensuite de décliner avec cette méthode-là.
Alors vous intervenez avec Esprit Prévention au cours de formations, de stages, d'études de poste aussi, de diagnostics, c'est hyper important. Je vais vous demander quelques exemples concrets sur le territoire. On ne va pas forcément citer les entreprises, ce n'est pas le problème, mais en tout cas montrer des études de cas, des exemples de cas.
Oui, tout à fait. Et c'est dans 3 minutes, juste après Léonie sur Neuve. About us, it makes me feel kinda homesick.
Can we go back in time?
It's like we're still in that bar and sing along to Oasis.
I wish that I could
revive. Lately I feel like I'm so out of touch. Wanna go back when we were drinking so much. It's a forever thing and I just want all those phases. 1, 2, 3, 4. 50, vous écoutez 9 et jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Et aujourd'hui, Emmanuel, dans nos studios, vous recevez Philippe Cadeau.
D'Esprit Prévention, Philippe Cadeau qui est dirigeant et formateur. Aujourd'hui est célébrée dans le monde entier la journée sur la sécurité et la santé au travail. Alors justement, votre travail vous mène sur le terrain à prévenir ces fameux risques, à les limiter, les supprimer si possible. Je vous ai demandé de préparer quelques exemples concrets. Vous avez dû intervenir par exemple sur une problématique, celle du bruit, dans un abattoir. Alors comment ça se passe quand on vous appelle? Qu'est-ce qu'on vous demande exactement?
Eh bien, là, en l'occurrence, donc c'était un abattoir dans le secteur de Chaland. Des salariés se plaignent du bruit. On ne sait pas trop si on a un niveau de bruit qui est dangereux ou pas, etc. Donc déjà, on informe l'employeur sur qu'est-ce que c'est que le bruit et puis quels sont les risques et comment qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Donc l'idée, c'est de partir vraiment. C'est valable même pour toutes les actions de prévention. De partir d'une étude et pas tout de suite dans des actions. Donc déjà, c'est de mesurer le bruit. Donc l'idée, c'est de savoir si on est au-dessus ou en dessous des 85 décibels, et donc s'il y a un risque pour les personnes qui travaillent sur la machine, en l'occurrence, qui étaient concernées.
Et alors, est-ce que le bruit est effectivement supérieur à la norme?
Ouais, donc là, de mémoire, on devait être à 92 ou 95, un truc comme ça.
Au lieu de
85.
D'accord.
Donc de la même manière, plutôt que de dire, on va vous fournir des bouchons anti-bruit ou des casques, etc. L'idée, c'est de savoir comment on peut réduire le risque au maximum à la source. Alors, sans aller jusqu'à changer la machine, parce que ça a un coût. Mais par contre, avec l'équipe de maintenance, on avait cherché des solutions pour qu'on puisse isoler un peu mieux le bruit et puis éviter des frottements, etc. Et donc gagner quelques décibels. Bon, malgré cela, on était quand même, on avait réussi à descendre le niveau de bruit, mais pas assez. Donc, il a fallu trouver d'autres solutions. Donc, on a essayé de mettre en place des protections collectives, comme un carter, par exemple, autour de la machine. Mais d'un point de vue production, c'était pas possible. Donc, dernier recours, on équipe le personnel avec des protections anti-bruit, des protections auditives, et on les sensibilise, on les forme sur le fonctionnement de l'oreille, comment ça fonctionne et comment on doit mettre ses bouchons et pourquoi on doit les mettre. Parce que fournir des équipements, c'est bien, mais le mieux, c'est de s'assurer que le personnel le porte.
Voilà, et soit informé, investi.
Voilà.
Donc, on est parti d'un diagnostic avec détail des différentes solutions et mise en place, en fait, de ces solutions aussi. Ça fait partie de votre travail.
Exactement. Et puis, donc là, vous voyez, par exemple, on est typiquement dans les principes généraux de prévention, où on part de quelque chose de général, et puis en dernier recours, on arrive sur l'individu et sur la formation ou les équipements ou les deux.
Autre exemple, une entreprise de paysage, donc paysagiste,
ouais,
vous a sollicité pour une série en fait de problèmes de TMS, ces fameux troubles musculo-squelettiques, un peu trop important donc.
Important oui, parce qu'il y avait pas mal de salariés en arrêt et régulièrement, on va dire que ça tournait quand il y en avait un qui revenait d'arrêt de travail. Alors c'était à la fois des lombalgies, des épicondylites, ce genre de choses au niveau du coude. Bon, des gens qui taillent beaucoup de haies, qui font beaucoup de travaux répétitifs avec des outils qui ont des vibrations, etc. Donc c'est assez classique malheureusement dans le secteur des espaces verts. De la même manière, on a étudié les postes, comment on était organisé, est-ce qu'on pouvait tourner sur les postes de travail, est-ce que c'était toujours la même personne qui faisait par exemple du taille-haie, quel outil on avait, est-ce que le personnel était formé pour savoir affûter, parce que plus ça coupe, moins ça fait mal aux articulations. Voilà, ce genre de choses. Donc ensuite, justement, on a pu mettre en place une organisation un peu différente au niveau du travail, et puis réfléchir à l'achat de matériel, par exemple sur batterie, qui est moins quand même générateur de TMS au niveau des vibrations que du matériel thermique, jusqu'à de la formation. Et là, on a eu même la cerise sur le gâteau, moi j'appelle souvent comme ça, c'est que l'employeur nous a sollicité pour engager une démarche pour former les salariés à l'éveil musculaire, aux échauffements en fait avant la prise de poste.
Donc intéressant, effectivement. Encore une fois, on parle diagnostic, et vous avez dit quelque chose, oui, dans un travail où en fait c'est fréquent, il n'y a pas de fatalité finalement.
Ouais.
C'est pour vous, c'est un peu votre credo, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a un travail qui va forcément faire mal au dos qu'on va s'arrêter là, on va essayer de trouver vraiment des solutions pour limiter ça.
Surtout aujourd'hui, on a quand même des outils, surtout là si on reprend l'exemple des espaces verts, autrefois il y avait beaucoup de travail qui était physique, manuel, etc. Aujourd'hui, on a avec des mini-pelles, avec il y a beaucoup de matériel de manutention, on en est même à intégrer des exosquelettes dans les espaces verts, qui limitent quand même l'effort physique. Je dis pas que ce sont pas des métiers physiques et pénibles,
bien sûr,
mais il y a des solutions. Souvent le problème, c'est qu'on agit une fois que les maladies sont déjà en place, quoi. Donc la prévention, c'est vraiment d'agir le plus vite possible et le plus en amont possible.
Donc on voit que vous pouvez intervenir dans plein de risques, ouais, possibles, dans, ouais, des différentes formules de prévention. Et puis vous avez, vous, des stages, des formations qui sont ciblées pour plein de type de risque aussi.
Oui, tout à fait. On parle autant de santé mentale que de santé physique, comme je disais tout à l'heure. Et on fait du secourisme, on fait des gestes et postures, on forme à l'utilisation de la tronçonneuse, aux travaux à hauteur, aux habilitations électriques, etc. Donc on essaie de... Et puis plein d'autres formations qui sont vraiment créées sur mesure par rapport aux besoins de l'entreprise. Et je pense au petit matériel dont on parlait tout à l'heure. On a de plus en plus de demandes sur les découpeuses thermiques à béton, les lapidaires, tous ces petits outils. Alors on ne va pas faire une journée complète sur un matériel, on essaie de les regrouper, mais c'est de la sensibilisation. Puis ça permet aussi de voir un peu l'état du matériel avec lequel on travaille, quoi.
Donc aujourd'hui, Philippe Cadeau, avec toute l'expérience que vous avez dans ce domaine, quel conseil vous donneriez aux entreprises? Alors en quelques mots, comment être aujourd'hui le plus efficace en termes de prévention des risques?
Je dirais que si on applique déjà les principes généraux de prévention, ou qu'on fait appel à nous ou à d'autres professionnels qui ont des méthodes, en fait, ça permet vraiment de mettre en place des actions efficaces, parce que le risque, c'est que quand on fait de la prévention un peu, je dirais, à la va-vite, c'est qu'on se rend compte que la mesure n'est pas efficace, donc on décourage aussi le personnel, et qui, ça décrédibilise un peu l'action, quoi. Donc, de prendre le temps d'évaluer les risques et de réfléchir à une action.
Et pourquoi pas effectivement d'appeler des professionnels dont c'est le métier et qui en connaissent beaucoup sur la question. Votre rôle, c'est justement d'accompagner les entreprises dans cette voie. Vous voyez votre métier aussi évoluer. On parlait de la problématique internationale du jour, à savoir le numérique, les IA. Ouais. Vous pensez que ça peut encore évoluer au fil du temps, ces risques?
Oui, on a toujours des nouveaux risques. La société évolue, les machines évoluent, notre façon de travailler évolue. C'est aussi ce qui est passionnant dans nos métiers. Donc effectivement, aujourd'hui, alors c'est très lié aux risques psychosociaux et à la façon de travailler. L'intelligence artificielle apporte forcément des outils qui vont nous faire gagner du temps et probablement éviter des risques. Je pense, si on a un robot sur une machine, l'humain n'est plus exposé aux dangers de la machine. Et à contrario, aujourd'hui, ça commence à être compliqué de savoir ce qui est faux, de ce qui est vrai. Donc on peut aussi générer des risques psychosociaux avec l'IA, sans le vouloir, évidemment.
En anxiété, etc. Merci beaucoup, Philippe Cadeau, de ses interventions régulières. Et puis là, c'était vraiment le jour J. Pour cela, on vous retrouve donc en podcast dans quelques minutes.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Et puis demain, dans les rendez-vous de midi, Emmanuel.
On va parler de l'espace partage qui a été lancé il y a quelques temps maintenant à Châlons. Et on va parler d'un bilan de ses activités avec Patricia Pifteau, coordinatrice des solidarités à Châlons.
Demain à 12h35. Merci Philippe, à bientôt.
Merci beaucoup.
Voici Marie Poulain sur Neuve.
Tout est moitié de mystère. Il y a de quoi être obsédé. Tu dis tout et son contraire. Y'a pas de quoi être contrarié. Le monde est un mystère.